France Musique.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver.
Escapade, Martin Bénet, France Musique.
Dans mon jardin d'hiver.
Personnage aux mille facettes, Henri Salvador résiste à l'analyse. Il a produit le moins bon comme le meilleur, dans presque tous les styles. Si la douceur au final l'emporte, c'est grâce à sa longévité exceptionnelle. Songez qu'il a commencé à jouer de la guitare dans les cabarets parisiens en 1933 et qu'il a donné son dernier concert au Palais des Congrès le 21 décembre 2007 à 90 ans passés. Son impressionnante discographie est un condensé des évolutions musicales populaires du XXe siècle, qu'elles viennent du jazz, des rythmes latino-américains ou des traditions antillaises, pour ne citer que les principales. Henri Salvador est né il y a tout juste 100 ans, le 18 juillet 1917, de parents tous deux guadeloupéens. Son père était d'origine espagnole et sa mère de souche indienne des Caraïbes. Le petit Henri a une sœur et un frère, André, qui sera aussi musicien de jazz. Car ce qui plaît à Henri, c'est plutôt la musique de son époque, Debussy et Ravel en tête, et bien vite, vers l'âge de 11 ans, il découvrira le jazz.
La base de toutes mes musiques, c'est le jazz, parce que je suis un jazzman.
Les trois plus grands, c'est Duke Ellington, Count Basie et Louis Armstrong.
Depuis tout petit, j'ai trois amis, Duke, Basie et Louis. Vous avez compris, matin en me réveillant, le soir en me couchant, et même en dormant, je les entends en rêvant. Duke, Basie et Louis, c'est ça le paradis.
Venu des Antilles, Henri Salvador est arrivé à Paris avec ses parents à l'âge de 7 ans, car son père voulait qu'il fasse de bonnes études. Mais le garçon a un caractère bien trempé et n'en fait qu'à sa tête. Il a en lui un petit ange tendre, mais aussi un petit démon qui ne pense qu'à braver les principes qu'on voudrait lui inculquer. Dans la radioscopie qui lui est consacrée en novembre 1970, Henri Salvador évoque au micro de Jacques Chancel ces deux aspects en apparence contradictoires.
Et je crois, évidemment j'ai les deux côtés. J'ai la tendresse des îles, si on veut dire, dans la voix, parce que vous savez que ma mère avait une voix absolument adorable, je crois que j'ai pris cet héritage, et puis, mais j'aime bien rigoler, vous savez. C'est...
Vous connaissez bien, Henri Salvador?
Ah, j'en sais rien, ça, je ne sais pas si je me connais bien, mais enfin, je connais bien le monde, je crois.
Vous venez d'où?
Moi, je viens, imaginez-vous que je suis né, mon père et ma mère étaient de la Guadeloupe, mon père était un percepteur.
Oui, j'ai lu ça, ça fait drôle. Hein.
Et je suis né à Cayenne, parce qu'il était percepteur à Cayenne. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de poivre dans le sang. Et nous sommes venus atterrir à Paris, et je suis venu très très jeune à Paris, et donc je ne me rappelle pas du tout de ce que c'était les Antilles, sauf quelques palmiers, mais comme il y en a un peu partout. Et puis... Je connais surtout les rues de Paris, quoi. Je suis venu, quand je suis arrivé, j'étais le premier de la classe. Parce que les études étaient beaucoup plus poussées là-bas aux Antilles. Et puis, deux mois plus tard, j'étais le dernier parce que j'avais découvert un copain qui était Titi, j'avais découvert l'argot, j'avais découvert les rues de Paris et j'ai appris à faire l'école buissonnière. Et je crois que je suis allé à la meilleure école en allant dans les rues de Paris que de rester en classe.
Henri Salvador, vous avez des diplômes?
Non, pas du
tout. Universitaire, bien sûr.
Non, pas du tout. J'ai le certificat d'études. On m'a supplié de m'en aller à 14 ans. Non, j'ai appris tout par observation. suis un observateur, et comme j'avais le don de faire rire les gens, je regardais les gens, et puis je les imitais après, ce qui fait que j'étais devenu un fantaisiste très tôt, et lorsque je suis allé sur une scène, eh bien, j'étais déjà un fantaisiste, je connaissais ce métier par cœur, et j'avais appris qu'il fallait imiter les gens pour les faire rire.
Tout jeune déjà, vous pensiez que c'était... Non, le spectacle que vous réussiriez.
Oui, parce que j'avais été une fois au cinéma avec mon père, qui m'avait emmené voir un film de Charlot. Et en sortant du cinéma, j'ai dit à mon père, tu vois, c'est ça que je vais faire. Et lui, pas du tout, il voulait pas. Il voulait que je sois ou avocat ou docteur, parce que dans mon pays, là-bas, il n'y a que des avocats et des docteurs. Ça, c'est le débouché pour l'avenir. Et moi, pas du tout. Et ce qui est triste, d'ailleurs, c'est que lorsque j'étais tout enfant, mon père m'avait demandé, qu'est-ce que tu voudrais à faire plus grand. J'avais envie de jouer du violon. Il m'a dit, ben, tu auras un violon quand tu travailleras bien à l'école. Et comme je n'ai pas bien travaillé à l'école, je n'ai jamais eu mon violon. Et je crois que je lui en ai voulu beaucoup pour ça. Parce que j'aurais été un grand concertiste, parce que j'étais doué pour la musique.
Et la guitare est venue à quel moment là ?
Ben, la guitare est venue accidentellement, à force de... À partir de 14 ans, j'ai commencé, comme j'étais toujours dans les rues, j'ai fini par rencontrer un des cousins de Django Reinhardt, Ferret, qui m'a vendu une guitare 100 francs. Et j'étais enthousiasmé par cet instrument-là et je travaillais tout seul, 24 heures. C'est fou ce que j'ai pu jouer de la guitare. Jusqu'à présent, je ne lâche pas cet instrument.
Stomping at the Savoy, un classique du jazz de 1934, ici enregistré en 1956 par Henri Salvador en compagnie du contrebassiste Pierre Michelot et du batteur Mac Cack. Le jeune Henri a donc appris la guitare en autodidacte, mais avec beaucoup de persévérance. Ses maîtres en la matière étaient les Manouches, Django Reinhardt et les frères Ferret. Si son enfance a vu éclore la passion de la musique et du jazz, sa vocation pour le spectacle est à peine plus tardive. L'amitié d'un clown du cirque Medrano a été déterminante, tout comme le prix qu'il a remporté à l'âge de 15 ans lors d'un concours d'amateurs organisé au Palais Berlitz en interprétant une chanson de Pils et Tabet. Et puis, bien sûr, le musical et le cinéma des années 30 ont nourri les rêves d'adolescent d'Henri Salvador, comme il le chantera bien plus tard sur des mots de Pierre Dudan.
Un village en plein Paris, c'était toute mon enfance. Paradis dans un taudis, c'était toute mon enfance. Y avait pas de sens interdit et si peu de bagnoles. champion de la cabriole. Je tricotais des guiboles. Je suivais les gens pressés et dans l'eau des rigoles. J'attendais d'une poche percée qu'un petit sou dégringole. Croissant fauché, café crème, c'était le régal suprême. Une guinguette à Robinson, une java et le grand frisson, c'était toute mon enfance en forme de chanson. Ginger Rogers, Fred Astaire, magicien de la danse, faisait tournoyer la terre, c'était toute mon enfance. Marlène, ange bleu du mystère, Popeye et Buster Keaton, Mistinguette et son homme, Chevalier et sa pomme, la divine Greta Garbo, c'était toute mon enfance. Laurel, Hardy et Charlot faisaient marrer la France. Harry Pilser, les garçons, dansaient le Charleston. Sur les rings du monde entier, triomphait Georges Carpentier. Ça faisait rêver les gosses de mon quartier.
Cette vision quelque peu romancée de l'enfance d'Henri Salvador est surtout le reflet de ses aspirations de l'époque. La réalité est plus triviale et il l'a en partie raconté pour l'émission Rendez-vous à 5 heures en novembre 1958.
Je n'étais pas un petit garçon recommandable, moi, quand j'étais jeune.
À partir de quel âge on ne dit pas recommandable?
J'ai commencé tôt, vous savez. À partir de 12 ans, j'étais dans les rues de Paris. J'allais jouer aux arènes de Lutèce.
Et à ce moment-là, vous saviez que vous aviez de la voix? Vous commenciez un peu à jouer?
Oh non, pas du tout, pas du tout.
Vous étiez un élève studieux?
Très mauvais élève. Écoutez, pour mon certificat d'études, on m'a supplié de le prendre et de m'en aller.
Mais vous l'avez tout de même passé, puisque vous l'avez pris.
Oui,
j'ai passé. Et après, vous avez dû quitter la classe, alors.
Oui, et alors j'ai commencé à faire... J'ai fait tous les métiers, vous savez. J'étais garçon livreur, j'étais vendeur de cacahuètes, j'étais vendeur de journaux, je vous dis, c'était épouvantable la carrière d'Henri Salvador. Je me suis assagi quand j'ai commencé à chanter, vous comprenez? Parce que j'étais un fou du jazz, à ce moment-là il y avait Duke Ellington, Armstrong, qu'on entendait à Paris, par les disques évidemment, et moi comme j'étais fou de ces gens-là, et j'ai commencé à vouloir faire du jazz. Alors je me suis commencé par la batterie, après j'ai pris la clarinette, seulement ça me chatouillait les lèvres, et puis après j'ai pris la trompette, mais c'était pas possible. Et enfin j'ai trouvé la guitare, cet instrument merveilleux.
Qui ne vous quitte jamais,
qui
me même quitte jamais, quand
qui
vous
a
répondez.
La forme de la femme et qui en a la voix. Alors évidemment j'étais tout de suite envoûté. Et vous savez, comme c'est un instrument d'accompagnement où je sifflais en m'accompagnant, un beau jour je me suis mis à chantonner et les copains de l'orchestre m'ont dit, mais dis donc, mais c'est pas mal, si au lieu de chantonner pour nous, tu chantais pour le public. Je dis, je veux bien, j'ai essayé et ça a commencé à plaire. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de chanteur.
Et je voudrais que vous disiez la toute première chanson que vous avez chantée en public.
Oh, celle-là je m'en rappelle plus, mais je sais, je peux vous dire la première chanson que j'ai écrite. Ça faisait à peu près comme ça, vous la connaissez d'ailleurs. Ma doudou est partie tout là-bas, l'autre côté de la mer qui est devant moi. Sur ma tête, il y a toujours le soleil, mais là-bas, c'est sûrement pas pareil. Ça fait bien longtemps que je l'attends. Alors, je lui dis, pourquoi t'es parti?
Vous voyez, j'étais déjà un peu triste, un peu mélancolique à cette époque-là.
Mélancolique, Salvador? Sans doute, mais aussi prêt à faire le pitre. C'est tout le paradoxe du personnage que nous allons évoquer durant ces trois émissions. Dans le Paris des années 30, les dancings et les cabarets étaient si nombreux que le jeune Henri n'avait guère de mal à trouver des engagements dès l'âge de 16 ans. Il était apprécié pour ses talents de musicien, mais aussi d'amuseur, comme il le racontera en 1989 au micro de Jean-Louis Foulquier dans l'émission Pollen.
Musicien de jazz, au départ, on va faire un retour en arrière.
Ouais.
Les tout débuts d'Henri Salvador.
Eh bien, moi, c'était au Quartier Latin. D'abord, j'ai fait la Manche, hein. C'est le boulevard Saint-Michel. Et puis, je me suis mis à apprendre la guitare parce que j'étais devenu fou de cet instrument. J'avais entendu Django à la radio.
je suis tombé amoureux de cet instrument et j'ai travaillé 18 heures par jour. Je ne lâchais pas mon instrument. Et ce qui fait qu'au bout d'un an, je jouais vraiment très bien. Et j'ai fini par être l'accompagnateur de Django Reinhardt. Et puis, j'ai joué avec tous les musiciens de jazz américains qui venaient, que ce soit Benny Carter, même Duke Ellington. Et je dois beaucoup à ces gens-là. Et le jazz, pour moi, c'est la musique d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est la musique du futur parce que c'est basé sur l'improvisation. Et l'improvisation, pour moi, c'est la base de toutes les musiques. Parce que même quand une musique est écrite, on rejoue presque toujours la même chose. Tandis qu'avec le jazz, on prend le même thème, mais on peut toujours s'envoler. Vu le cœur et l'esprit du musicien qui s'exprime. Donc c'est pour ça que ça me plaît le jazz. À chaque fois, c'est un renouveau perpétuel.
Extrait du disque mythique enregistré en avril 1956 sous la direction artistique de Boris Vian, Henri Salvador plays the blues, où bien sûr ce dernier tient la guitare et assure le scat, en compagnie du contrebassiste Pierre Michelot et du batteur Macaque, alias Jean-Baptiste Rey. Au milieu des années 30, Henri Salvador a connu la plupart des grands musiciens de jazz américains qui venaient s'installer à Paris, où ils étaient appréciés pour leur talent, loin des discriminations raciales en vigueur outre-Atlantique. Tout comme dans son autobiographie « Attention ma vie » publiée en 1994, les souvenirs de Salvador sont souvent épars, à l'image de son goût de l'improvisation en jazz. L'anecdote l'emporte souvent sur le souci de la chronologie. Alors voilà où il en était de son parcours en 1936, à l'âge de 19 ans.
J'ai commencé dans un cabaret qui s'appelait Jimmy's Bar à Montparnasse. Et c'est là que j'ai travaillé. Et puis après, mon frère est parti au régiment et on a dû changer la formule. Mais le patron m'avait gardé comme musicien. Et la première personne qui l'a engagé, c'était Django Reinhardt. Alors, je me suis mis à jouer à côté de Django Reinhardt. J'étais très ému parce que c'était un monument, ce type-là. Mais il m'avait pris en sympathie. Mais ce qui était drôle, c'est qu'il était jaloux de ses accords, lui. Alors moi, le premier soir, j'étais à sa gauche et je regardais comment il faisait. Le lendemain soir, il m'a fait mettre de l'autre côté parce qu'il voulait pas qu'on lui pique ses accords. C'était un enfant, celui-là aussi. Et alors... Après de Django Reinhardt, j'ai été contacté par un orchestre américain qui était venu en France, il s'appelait Eddie South, un violoniste formidable. D'ailleurs, il a fait des disques avec Grappelli à Paris, avec Django et tout ça. Et je faisais partie de cet orchestre où le pianiste m'avait appris comment il fallait faire les accords très larges, parce que je jouais sur quatre cordes quand j'avais une six cordes. Il me dit, mais non, faut jouer tout entier, il m'a expliqué. Et j'ai appris beaucoup de choses avec ces gens-là. Et ce fameux Jimmy's Bar, il y a une histoire formidable, parce que comme c'est bourré, il y avait des gens qui venaient de New York, de Londres, Paris, il y avait le gratin, je me souviens, Gabin même, il venait là. Et 10 ou 15 ans plus tard, on me dit, mais tu n'as pas compris pourquoi il y avait tellement de gens dans ton cabaret. Je dis, bah, écoute, parce qu'on était bons, on faisait de la bonne musique. Il me dit, pas du tout, ils s'en foutaient, ils venaient pour la drogue. Et moi, je ne savais pas. On voyait des lords anglais, des gens... Mais c'était seulement pour la drogue, c'était invraisemblable. Je l'ignorais complètement.
Mais son engagement au Jimmy's Bar sera écourté. De la classe 1937, Henri Salvador fait son service militaire à Paris, à la caserne de la Tour Maubourg. Durant 3 mois, il fait même le mur pour aller jouer de la guitare dans les cabarets, jusqu'au jour où il se fait pincer, mais garde tout de même le sourire. Puis la guerre est déclarée. Mobilisé avec son régiment à Soissons, il se retrouvera après l'exode de juin 40 à Biarritz. Il y reste quelque temps pour jouer dans un cabaret, mais songe surtout à passer en zone libre. C'est via l'Espagne qu'il rejoint Marseille, puis Nice, en 1941. Le violoniste Bernard Hilda l'engage alors dans son orchestre pour jouer au Maxim's. En plus de la musique, c'est là que Salvador met au point une série de sketchs qu'il exploitera durablement par la suite. Bernard Hilda joue également au cabaret Le Relais à Cannes, et c'est là que Ray Ventura, également réfugié sur la Côte d'Azur et qui s'apprête à embarquer pour une longue tournée en Amérique du Sud, décide de recruter Salvador. Bernard Hilda, qui d'ailleurs rejoindra l'Espagne peu après, lui conseille d'accepter cette opportunité. La nouvelle formation de Ray Ventura transite par l'Espagne et débarque peu avant la Noël 1941 à Rio de Janeiro où l'attend un engagement au luxueux casino d'Aurca. Mais les choses ne se passent pas aussi simplement que prévu. Et l'on peut dire que Ventura doit une fière chandelle à Salvador, comme ce dernier le racontera en 1992 au micro de Thierry Aveline dans l'émission Opus sur France Culture.
Quand on est arrivé au Brésil, d'abord, le premier jour, on est allé au casino, on devait jouer. Et le directeur nous reçoit, alors on s'est mis à bouffer, parce qu'on sortait de la France où on bouffait des topinambours. Et là, alors, gueuleton, on n'avait jamais vu ça, on a bouffé comme... Et alors, spectacle, on voit arriver 150 girls, 3 orchestres de 40 musiciens, le show commence, on voit, en première partie, il y avait les Kangaroo Dancers qui étaient dans le film Elsa Poppin, entr'acte, re-orchestre, et d'un seul coup, qui on voit arriver? Bing Crosby. Et alors, on voit un spectacle formidable, on bouffe, on glace chocolat, champagne, tout. Et à la fin, le type, il dit, ben, vous voyez, la semaine prochaine, c'est à vous. Le coup de bambou. Et alors, après, on va répéter. Il se trouve que Ventura tombe malade. Et il avait une fièvre, je sais pas de quoi. Alors, on va répéter avec Pod Misraki. On était 25 bonhommes. Et on commence à répéter le répertoire et Ventura, quoi. Et tout, très bien, madame la marquise, enfin... Et à la fin de la répétition, il y a le type qui se lève, le patron avec le directeur, il vient, il dit, excusez-moi, monsieur Misraki, c'est ça que vous allez jouer pour la semaine prochaine? Il dit oui. Ah, il dit, mais faut tout changer. Il dit, si, ça marchera pas du tout. Il dit, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas changer, c'est notre répertoire. Dit, mais vous avez dit, c'est la catastrophe. Et on tremblait comme des feuilles. Enfin, le jour arrive de la première. Ventura arrive un peu patraque parce qu'il sortait de sa fièvre. Et il dit à les enfants, merde, hein. Et on attaque, boum, première chanson, on fait bille de noir. Pas un applaudissement. Alors, ils vont aller, et maintenant, je vais aller, paf, on attaque le deuxième morceau, bille de noir. On commençait à être un peu pâle. Troisième morceau, bille de noir. Oh, on dit, c'est pas possible. Alors là, il se retourne vers moi, il me dit, Henri, sauve-nous. Et il vient, il a dit, mesdames et messieurs, ici, Henri Salvador. Et moi, à cette époque-là, je faisais un sketch sur un dessin animé que vous connaissez, qui s'appelait Popeye de Salomon. Et je commence mon truc, je fais Popeye, nagin, la main, pou, 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 et je fais tout un petit sketch là-dessus. Et voilà la salle qui se réveille, applaudissements, debout, voilà, et le lendemain, dans les journaux, où Popeye? C'était extraordinaire, quoi. Ça avait révolutionné la salle. Après, j'ai fait une chanson qui s'appelait Maladie d'amour, d'ailleurs. Alors, c'était la... Et après, alors, ça, c'est parti. Quoi qu'on fasse, c'était le succès. À tel point que lorsqu'on a fini, on a salué, rideau, on est parti. Et Ventura a salué toujours. On a pris notre douche, on s'est habillé, on revenait, on l'applaudissait encore. Et sans le vouloir, j'avais sauvé avec de petites conneries, quoi, un sketch. Mais c'est parce que je crois que les gens ont cru que j'étais brésilien, parce que je ressemblais énormément à ces gens-là. Et en plus, moi, j'avais appris à parler cette langue en 15 jours. parce que c'est ça. Je suis atteint de mimétisme, moi, parce que j'imite n'importe quoi. Même si un type écrit devant moi, je peux écrire exactement comme lui. Et d'oreille, alors j'en tape tout d'oreille.
I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. And I worked it till I finished. And I ate my spinach. I'm Popeye the Sailor Man. 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 I'm Popeye the Sailor Man.
I'm Popeye the Sailor Man. I'm
Popeye the Sailor Man. I'm
Popeye the Sailor Man. I'm Popeye
the Sailor Man. So listen to this, you move over
there. My cousin, that's a boy.
But I want to have a job. He's part of the guy. Oh, you're about to take up there. Yellow Toots, how are you? Yellow, Papa! She's about to get up. So listen, give a kiss, your friend.
That's mine.
Hey, listen, you want to fight? Just let me take my spinach before. I worked it till I finished, and I ate my spinach. I'm Popeye the Sailor Man.
Incroyable reconstitution faite en 1946 à Radio Lausanne de ce grand moment de musical qui, 4 ans plus tôt, a convaincu le public du Casino d'Aurka à Rio de Janeiro. Mais Salvador sait aussi se montrer tendre lorsqu'il prête sa voix à l'orchestre de Reventura tout entier en chantant une jolie composition de Paul Misraki.
Je vais vous en faire la confidence qu'il y a dans ma vie du nouveau. J'ai perdu mon calme et mon assurance et mon cœur n'a plus de repos. Mais ce que j'ai trouvé est plus beau. C'est la première fois que j'ouvre les yeux. C'est la première fois que je comprends la vie. Tout semble si merveilleux et les choses se simplifient. Car je vous vois pour la première fois. Pour la première fois, je crois au bonheur. Et descend près de moi une présence amie. Je laisse parler mon cœur. Qui me dit que vous êtes jolie et que j'aime pour la première fois.
De 1942 à 44, Henri Salvador et les musiciens de Reventura ont sillonné une bonne partie de l'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Pérou, Uruguay et Chili. Surtout guitariste de l'orchestre, il arrivait à Salvador de chanter, comme nous venons de l'entendre dans cette précieuse gravure réalisée à Buenos Aires en juin 1943. Il a même profité de cet exil forcé pour prendre des cours d'harmonie au Brésil et pour participer à des jam sessions du quintet de Louis Vola à Buenos Aires. De retour en France à l'automne 1945, Salvador reste membre de l'orchestre de Reventura durant quelques années. En 1946, il grave plusieurs phases de 78 tours comme « Hey Baba Ulibap »,« Monsieur de la Palisse » et la fameuse samba brésilienne « Maria de Bahia » composée par Paul Misraki.
Du Brésil, coquette,
oui,
honnête,
non,
si fraîche que dans toute la ville de Bahia, on l'appelait,
comment,
la belle Maria,
chacun voulait la voir entre ses bras,
aïe 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 Maria, Maria de Bahia.
Elle avait le teint comme une satin, la belle Maria, et tous les cœurs cabriolaient quand elle montrait ses
mollets,
couleur de café au
lait. Aïe 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 Maria, Maria de Bahia,
qui menait le bal au carnaval, c'était Maria, et tous les garçons de là-bas, quand elle dansait la samba, frémissaient du haut en bas.
des tambourins, de la rivière. Tam Tam disait, t'as bien raison de Tam t'amuser. Aïe 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 Maria, Maria de Bahia.
Les hommes se battaient pour inviter la belle Maria.
Quand on l'avait trop embrassée, elle allait se confesser, et puis elle recommençait.
Aïe 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 Maria, Maria de Bahia.
Vous n'en doutez pas, le cinéma se l'approprie. Elle tourna le scénario d'un grand impresario qui se trouvait à Rio
de Janeiro.
Mais un beau jour, elle est revenue dans la mélasse, la tête basse et les pieds nus.
Aïe 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 Maria, Maria de Bahia.
Avec le dadais qui l'attendait, elle se maria. Et depuis ce jour, il n'y a pas de femme à Bahia plus fidèle que Maria.
Plus fidèle que Maria, plus fidèle que Maria. Maria.
Escapade. Martin Pennet, France Musique.
Ce grand succès de danse de l'année 1947 sera repris dans le film musical Mademoiselle s'amuse, dont la vedette est bien sûr l'orchestre de Ray Ventura. Sans abandonner complètement l'orchestre, avec qui il continuera d'enregistrer de temps à autre et de participer à ses films musicaux, Salvador décide de voler de ses propres ailes. Pour tenter une carrière solo, il va voir au culot le directeur de Bobino et obtient d'être pris à l'essai pour quelques jours. Mais en fait d'essai, il casse la baraque, comme on dit dans le métier. En janvier 1948, Henri Salvador enregistre un premier disque sous son nom avec Clopin Clopin et Maladie d'amour. Dès lors, ses passages dans les music-halls vont alterner avec des engagements dans les cabarets, comme le très chic chez Carrère, aux Champs-Élysées, où il monte un petit orchestre et fait des sketchs qui amusent le tout Paris habitué de l'établissement. À l'automne 1948, il est même à l'affiche de l'opérette Le Chevalier Bayard, à l'Alhambra, avec Yves Montand. Pour évoquer cette nouvelle période de sa carrière, je vous propose une belle archive tirée de l'émission Rendez-vous à 5 heures en novembre 1958.
J'ai toujours été un peu mélancolique, seulement comme j'ai un petit diable et un petit ange dans moi. C'est vrai parce que l'ange, c'est lui qui me pousse à chanter les jolies chansons, et le diable, c'est lui qui me pousse à faire des pitreries. Ce qui fait que c'est une bagarre perpétuelle et je suis obligé de temps en temps mettre d'accord mon ange et mon diable. C'est pour ça que
et
sur scène...
Et ça se passe comment? Alors sur scène.
Et c'est sur scène que je suis obligé de les mettre tous les deux ensemble. Alors à un moment je suis diable et à un moment je suis ange. Mais je crois que sur le public, je crois que c'est le diable qui l'emporte.
Et quand le diable est-il apparu dans vos chansons? Les diableries?
Oh, les diableries, c'était avec une chanson. Oh, mais ça, je m'en rappelle plus de celle-là. C'est la première chanson, c'était une chanson de Paul Misraki. Il s'appelait Silence on tourne. C'est toutes les péripéties d'un metteur en scène, enfin, tout ce qui se passe sur un plateau de cinéma.
182 figurants, 30 machinistes et 20 juments. Les super productions Atlas vont tourner Attaque au Texas. Dans le studio de cinéma, sur le plateau, tout le monde est là. Metteur en scène est sur les dents, il se démène en glapissant. Allumez-moi les projecteurs. Je ne vous vois plus. Ah, je me rappelle plus. Allumez-moi les projecteurs. Je ne vois, je veux plus voir de fumeurs. Enfin, il demande toujours le silence. Enfin, et puis après, en fin de compte, il devient complètement fou parce que c'est la pagaille. Au moment où il demande le silence, on commence à faire tourner le moteur. Au moment où on fait tourner le moteur, enfin, je sais pas s'il arrive des choses invraisemblables, il devient fou, quoi. Vous voyez, c'était déjà les prêteries. Ça, c'était Monsieur Misraki qui est responsable de ça.
Et c'était à quelle époque, ça, à peu près?
Oh, ça, c'était en 47.
Alors ensuite, je vous demande toujours, et puis?
Et puis voyons voir. Il faut que je me rappelle les chansons que je chantais, parce que j'en ai chanté. Ah oui, il y avait cette chose que j'aime aussi de Paul Misraki, c'est fait...
Un petit souper aux chandelles, un petit souper tendre au coin du feu, nous étions heureux, je regardais ses cheveux et les flammes allumaient. Des étoiles dans ses yeux.
C'est joli ça, hein?
Très joli.
Et puis il y avait aussi...
Tu ressembles au portrait de ma tante Caroline qui est pendue dans l'entrée chez ma cousine. Tu ressembles trait pour trait à ce très joli portrait. Et tout comme je l'aimais, je t'aime.
Et puis alors il y avait aussi... Attendez, laissez-moi voir à cette époque-là. Ah, il y avait de Mireille et Jean Noël.
Quand le facteur part en tournée, on l'entend toute la matinée fredonner. Parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'ouvrage,
etc., etc. C'était le Grand Prix du disque, ça.
Salvador remporte effectivement le Grand Prix du disque 1948 avec « Parce que ça me donne du courage », chanson de Mireille et Jean Nohain. Début 49, il est engagé dans la revue de l'ABC, Paris s'amuse, dont Mistinguette, alors âgé de 74 ans, est la vedette. Il participe à plusieurs sketchs et inclut son propre tour de chant. Pour en avoir une idée, je vous propose un document enregistré en décembre 1949 au Cabaret des Ambassadeurs à l'occasion d'un gala du journal France Soir.
Henri Salvador, Grand Prix du disque 1949, a une manie. Quand on l'applaudit, il crie, de joie naturellement.
Vous chantez une petite chanson de mon pays parce que je suis des Antilles de la Guadeloupe, enchanté. Et pour chanter cette chanson, évidemment, il faut créer une ambiance. Alors nous allons imaginer que nous sommes sur une colline de cette île magnifique où je naquis un jour. Et sur cette colline, il y a un palmier, un banc, deux amoureux. En bas, il y a le village, il y a des petits oiseaux. Et de loin, alors de très, très loin, nous entendons le son des cloches, à peu près comme ceci.
Maladie d'amour. Maladie des amoureux, cherche à suer mes mains, ou à m'achider moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, cherche à suer mes mains, ou à m'achider moi. Fiche mimi piti, ibiti tout piti, si on dit c'est pangage, mes amis mes pieds lits. Quand il t'aide lit en l'air, veillez garder l'angli. En bout de lit, c'est l'amant, c'est mitière en bataille. En bout de lit, c'est l'amant, c'est mitière en bataille. Oui. Maladie d'amour, maladie des amoureux. Cherche à si ouais mais moi, ou à marcher d'œil moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Cherche à si ouais mais moi, ou à marcher d'œil moi. Biche, 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 biche. Si on dit c'est pancage, mes amis, mes chélis. Quand il t'est lié en l'air, veillez garder l'angli. En bout de lit, c'est l'amant, c'est mitière en bataille. En bout de lit, c'est l'amant, c'est mitière en bataille. En bout de lit, c'est l'amant, c'est mitière en bataille. En bout de lit, c'est l'amant, c'est mitière en bataille.
Contrairement à ce qu'il déclare en 1949, Henri Salvador n'est pas né en Guadeloupe, comme ses parents, mais à Cayenne, chef-lieu de la Guyane. Mais à l'époque de l'émission que nous venons d'entendre, ce gala de France Soir au Cabaret des Ambassadeurs, le bagne de Cayenne était en plein démantèlement et véhiculait certes une image moins poétique que celle des Antilles, de sorte qu'une petite entorse à la vérité peut se comprendre. Le rapport de Salvador aux Antilles est quasi existentiel. Il l'illustre aussi souvent qu'il le peut, notamment lors de l'émission La Joie de Vivre, consacrée en avril 1954 à Lynn Renault.
Bah, à part Henri Spade, quel est l'homme qui vous fait le plus rire ?
Henri ?
Oh, c'est un autre Henri, justement. Vraiment, celui qui me fait le plus rire, c'est Henri Salvador.
Henri Salvador.
Rien que de le voir, je ris.
Bah, pour votre choix de rire, le voilà, Henri Salvador.
Bonsoir. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée aux Antilles. Vous savez, c'était avec une belle fille. Vous avez des Antilles, grande, blonde, les yeux bleus. Mais elle avait le teint mat. Elle avait le teint mat. Alors, la chanson, comme elle se passe aux Antilles, je vais remuer un petit peu. Fraîche comme une fleur, l'ingénue de mon cœur. Est la plus jolie fille de toutes les Antilles. Elle me donne son petit bouquet de fleurs. Elle me donne son petit porte-bonheur. Elle me donne aussi son petit cœur. Et quoi encore? Moi je lui donne un joli chapeau. Moi je lui donne un joli manteau.
et aussi une petite auto. Et quoi encore? Comme c'est doux de tout donner, comme c'est doux de bien s'aimer, comme c'est bon de s'échanger, comme ça, des tas de choses. Elle me donne son petit banjo, son caraco de calico, et aussi un petit béco, et quoi encore? Oh là là! Ah, moi je lui donne un joli collier, moi je lui donne un joli panier, tout plein des fruits de mon verger, et quoi encore? Aïe, 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 aïe! Mais au bout de 8 jours, elle m'a dit, mon amour, c'est trop beau pour durer, hein? Et je dois m'en aller. Hein? Elle a repris son petit bouquet de fleurs. Elle a repris son petit porte-bonheur. Elle a repris aussi son petit cœur. Seulement voilà. Elle a gardé le joli chapeau. Elle a gardé le joli manteau. Et aussi la petite auto. Et puis voilà. Comme c'est nul de tout donner. Comme c'est nul de bien s'aimer. Comme c'est bon de s'échanger comme ça des tas de choses. Elle a gardé le joli collier, elle a gardé le joli panier, tout plein des fruits de mon verger qu'elle a mangé. Je suis resté sans un sou, mais je me suis traité de fou. Il ne me reste rien du tout, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Mais puis c'est tout, quoi. Comprendre rien.
Salvador fait partie des représentants de la musique antillaise à Paris dans son versant grand public, car il ne faut pas négliger les artistes qui font leur carrière dans les cabarets fréquentés par la communauté antillaise. Je pense aux orchestres de Sam Castandet, Ernest Léardé, Félix Valverte, Alfonso, aux chanteurs Gérard Lavigny, Gilles Salat ou Mundo Rivel. Pourtant, la musique des Antilles n'est qu'un volet de l'œuvre de Salvador, car pour lui, comme il nous l'a déjà dit, la base, c'est le jazz. En 1950, il fait la connaissance d'un certain Boris Vian par l'intermédiaire du musicien Jacques Dieval qui a composé une musique sur un texte de Vian, C'est le bebop. Ce morceau symbolise la rupture déjà consommée depuis quelques années entre l'ancienne et la nouvelle génération du jazz.
Voici une chose un peu plus avancée dans la musique moderne. C'est l'étude du blibli-bli, du blablabla, du houlioumop. Une jolie page de Boris Vian et Jacques Dieval qui s'appelle It's a bebop.
Écoutez toute l'année sans arrêter, c'est le bebop. Il faudra laisser tomber les chanteurs, plein de douceur et de candeur pour le bebop. Je vous dis que ce sera bien porté de fredonner, de chantonner comme bebop. Cherchez tout de suite avec ardeur un professeur un peu à la hauteur pour le bebop. Je vais vous aider pour les premières leçons. Je vais vous guider avec la plus grande attention. Toutes les branches de l'activité seront visées, c'est sûr et c'est réglé par le bebop. On doit s'habiller ou se promener, manger, danser et même s'aimer à la bebop. Comme du pain à pleine main chez les bebop, vraiment pour être toujours plein d'entrain. Venez, n'attendez pas demain, soyez bebop. Oh
Cette première collaboration entre Boris Vian et Henri Salvador est brève, mais elle prendra forme quelques années plus tard, comme nous le verrons dans la prochaine émission. En juin 1954, Salvador obtient une forme de consécration en donnant son premier récital à la salle Pleyel, accompagné par l'orchestre de Michel Legrand. Le spectacle est enregistré et bénéficie d'une édition en 33 tours 25 cm Philips. Et bien qu'il ne s'agisse que d'une sélection des titres du concert, on peut y entendre un hommage à Charles Trenet dans une version très haute du fameux boom que le fou chantant avait créé en 1938.
Merci.
Quand notre cœur fait boum, tout l'univers dit boum, l'oiseau fait boum, c'est l'orage.
Achabala, bala, bala, boum,
l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit ça boum dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger que l'oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout l'univers dit boum, parce que mon cœur fait boum boum. J'entends toujours boum, ça fait toujours boum, 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 boum. A Charlie, a mon maman, hop, a bap, a kid, non, man, on a bap, boum, bap, a Charlie, nous, la boum, bap, a parlé, a boum, bap, non, bap, ou bep, chibem, chiclou, comme hop, la 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 la, ou bep, chibem, chiclou, comme hop, bria, bla 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 bla, bap, boum, que ça fait boum, boum, ça fait boum.
Un extrait du tour de chant d'Henri Salvador à la salle Pleyel en 1954 dans cet hommage à Charles Trenet. Durant ces années 50, Henri Salvador adopte tous les rythmes à la mode, qu'il s'agisse du bebop, du mambo ou du cha-cha-cha. Pour certains d'entre eux, il revendique même leur importation en France. C'est le cas en 1956 pour le rock'n'roll, grâce à l'enregistrement d'un disque resté fameux, une histoire qu'il raconte avec délectation sur France Inter en 1992.
C'est Boris Vian qui avait trouvé l'idée, hein, parce qu'on avait, c'était Michel Legrand qui venait d'Amérique, et il a dit, il y a un truc qui marche terrible là-bas, c'est le rock'n'roll. Alors, Boris dit, ben, on va en faire. Alors, on s'est mis à, j'en ai écrit un. Hein. Et puis, Michel Legrand a écrit les trois autres, et puis Boris Vian a fait les textes de tout. On a pris une équipe de fous, là, et on s'est mis à chauffer dans le studio terrible. Et ça fait un très bon disque. Et alors, Boris dit, mais on pourra jamais le vendre, parce que si on sait que c'est Salvador, Vian et Michel Legrand, il faut faire un truc bidon. Et il m'a baptisé en recording, et il a appelé Michel Legrand Big Mike, et lui, il a pris son nom de, j'irai cracher sur vos tombes, Vernon Sullivan. Et c'est comme ça qu'on... Les gens croyaient que j'étais américain, mais pas du tout. Mais ça avait fait un bon truc.
J'ai le hockey, Dieu me l'a fait. J'ai le hockey, et je ne peux plus m'arrêter. Je suis suffoqué. Je rock et je rockette.
C'était la première fois aux États-Unis en 1956 ou 57, enfin, dans ces parages. C'était l'époque où il y avait Bill Haley, Round the Clock, c'était le début du contre-temps. Vous savez, le rock, c'est un contre-temps frappé fort, hein, c'est rien d'autre. Enfin, à l'époque, en tout cas, après ça s'est vaguement développé. Mais alors, on était avec Canetti, donc je faisais une émission de télévision avec Maurice Chevalier à New York, et j'écoute ça, je dis, tiens, c'est marrant. Alors, en revenant en avion avec Canetti, on s'est dit, tiens, c'est drôle, on va on va s'amuser, on fait un rock à Paris. Alors, avec qui on va le faire? Alors, j'ai dit à Jacques, j'ai dit, ben, on va prendre Salvador qui va chanter parce qu'il swing comme une bête. Et on va, moi, je vais faire les musiques et on va demander à Boris Vian de faire les textes. Puis on va s'amuser. Alors, on a fait un 45 tours de 4 titres. À l'époque, ça se faisait. Et on a fait donc 4 rock'n'roll où il y avait rock'n'roll mobs, va te faire cuire un œuf, toutes les conneries qu'on avait fait avec Boris. Et puis Henri les chantait. Alors tout le monde avait pris un nom d'emprunt, quoi, pour que ça fasse comme si c'était un truc qui faisait l'Amérique. On se marrait. Il y avait Henri Cording, il y avait Sullivan, y avait Big Mac, enfin, on avait mis des trucs comme ça.
Je laisse lui dans un instant. Que j'ai dans l'œil, elle est tombée comme une feuille, quand mes grands badauds en houtan. On s'est aimé comme des dieux, à Saint-Bourg on serait resté bleu.
Le bonheur jouait dans un creux désert de jazz qui swingait bien.
Mais à la fin j'avais si faim que j'ai appelé le bar du coin à l'eau du pont. Montez-moi donc de quoi manger, sinon je vais crever.
Qu'est-ce qu'il faut vous apporter?
Apportez-moi sans hésiter.
Rock and roll, man.
Avec du pain beurré.
Rock and roll, man.
Et du beefsteak haché.
Rock and roll, man.
Avec un œuf à cheval.
Rock and roll, man.
Je me sens cannibale. Des escalopes de kangourou, du sauciflard, de sapajou, du foie de lion au salsifis, de la tête de lard au fric en frit. Et dans un plat, rien que pour moi, bien préparé, pas trop assaisonné.
Rock and roll, man.
Ça m'a réconforté.
Rock and roll, man.
Je suis plein à craquer.
Rock and roll, man.
Ma force a décuplé.
Rock and roll, man.
On est retourné se coucher.
Vous avez été le premier rocker.
Oui, c'était le premier rocker. Je le regrette parce que j'aime pas tellement le rock. Mais enfin, j'avais fait ça, on avait fait ça en canular, quoi. Malheureusement, les gens ont pris ça au sérieux. C'est temps avant que Johnny Hallyday devienne ce qu'il est, quoi.
En fin de compte, c'est vous qui avez apporté le rock and roll in France.
Je suis absolument désolé.
C'est vrai que vous n'aimez pas
je
le rock.
Je m'en excuse. Ah, je déteste. C'est pas de la musique, c'est n'importe quoi. Et je ne comprends pas. C'est vraiment le jazz du mauvais goût.
C'est entendu. Malgré le succès de ces 4 titres enregistrés en juin 1956, Rock'n'Roll Mops, Dis-moi que tu m'aimes rock, Rock OK et Va te faire cuire un œuf man, Henri Salvador n'aime pas le rock. En revanche, ce fou de jazz aime tout autant les rythmes d'Amérique latine et des Antilles, comme il nous l'a déjà dit au cours de cette émission, et comme il le raconte à nouveau au micro de Pierre d'Ivoire pour l'émission Rendez-vous à 5h en avril 1957.
Mais je constate que tout de même, vous êtes toujours à l'avant-garde du progrès et vous êtes toujours à l'affût des rythmes nouveaux. Enfin, vous êtes un de ceux qui avaient introduit le rock'n'roll en France, qui d'ailleurs
nous venait d'Amérique. Je suis celui. Pas un de ceux.
Oh, pardon.
Je lance la mode, je ne la suis pas.
Oui. Et maintenant, il y a le calypso qui...
Le calypso, que j'ai entendu à Londres lors de mon dernier passage, et j'ai pensé que ça plairait beaucoup aux Français. D'ailleurs, avoir une couleur beaucoup plus exotique, je pensais présenter surtout le Titi Antillais, parce que c'est un personnage axé extraordinaire, ce Titi Antillais. C'est un type qui est très drôle. Et en général, il ne sait pas grand-chose, mais il se targue de tout savoir. Et en plus, il parle avec un accent antillais qui est très amusant. Par exemple...
C'est un accent que vous n'avez jamais eu, vous?
Non, je n'ai jamais eu, parce que j'ai toujours vogué dans les rues de Paris. Et jusqu'à présent, je connaissais cet accent-là, mais je ne m'en suis jamais servi. Et je trouve que ça colle très bien avec le calypso, et pour que ça ait beaucoup plus de couleurs, j'ai pris cet accent, qui est très amusant, et comme je vous disais, ce sont des gens qui se targuent de connaître beaucoup de choses, mais ils ne connaissent pas grand-chose. Alors, par exemple, le dimanche, ils ne pensent qu'à une chose toute la semaine, c'est de bluffer les copains, par exemple. Ou bien alors, ils se crèveront toute leur vie pour venir à Paris et ramener des souvenirs. Par exemple, ils diront, j'arrive de Paris, quand ils... et mon frère, là-bas, a une très belle situation, il est dans les autobus. C'est lui qui tire le cordon pour que ça parte. S'il ne tire pas, l'autobus ne part pas. Alors évidemment, pour là-bas, le type lui dit, bon, oui, son frère, il doit être drôlement bien.
Mais je crois que vous allez pouvoir faire ça vous-même bientôt, parce que vous allez partir aux Antilles.
Oui, j'y vais justement le mois prochain.
Qu'est-ce que vous allez leur raconter, vous, là-bas, aux Antilles?
Et je me le demande, parce que... mais je crois que moi...
Vous pourrez dire que quand même, vous-même, vous avez une situation à Paris. C'est un nom à Paris, oui, il faut bien le dire.
Mais surtout, ce que j'espère, c'est pouvoir ramener...
Je pense que ça c'est là-bas, quand même.
Oui, mais justement, c'est vrai que c'est la première fois que j'y vais.
C'est la première fois.
Alors, vous savez que depuis Joséphine de Beauharnais, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait autant de boum en France.
Oui.
Alors, je crois qu'ils vont me faire une statue. Je me vois très bien en statue, moi.
Alors vous vous attendez à la grande ovation là-bas.
Ben oui.
Oui, ben bravo.
Ça va être du délire, enfin, ça va être très amusant, en tout cas.
Bon, alors ça vous viendrez nous le raconter après, mais alors revenons au Calypso. Alors je veux vous amener quand même à vous faire annoncer un de vos disques.
Oui, c'est vrai. Alors évidemment, comme je vous disais, j'ai enregistré Calypso, mais alors avec l'accent antillais, pour vous donner une idée de ce qu'est le Titi antillais, parce que c'est un type très drôle.
Alors un exemple de ce Titi avec un exemple de Calypso.
Eh ben voilà, ça s'appelle « Oh, s'il n'y avait pas ton père » ou « ouais ». Parce qu'ils ne disent pas, ils ne prononcent pas les R. Ils mettent « OU » à la place du « R ». Alors c'est pour ça qu'il dit « Je suis très content d'être dans le rendez-vous à 5 heures et de vous présenter « Oh, s'il n'y avait pas ton père ». En avant la musique.
Voici l'extrait d'un gala des îles organisé en avril 1959 à la mairie du 15e arrondissement de Paris où Henri Salvador, accompagné par l'orchestre du Lido, présente une dizaine de morceaux. Et à un moment bien choisi du spectacle, il se saisit de quelques accessoires pour interpréter la chanson suivante sur un rythme de calypso.
La guitare. Le chapeau de paille. Tout ceci pour vous interpréter. Oh, s'il n'y avait pas ton père. Alors toi, tu sais, je t'aime bien, mais tu sais, ton père, il commence à me courir sur l'haricot. Hein, là, là.
Sur les bateaux qui frémissent, il y a du soleil qui flamboie. Comme la vie serait jolie si tu étais à mon bras.
Oh, s'il n'y avait pas ton père, ouais. Oh, s'il n'y avait pas ton père, on serait heureux. Oh, c'est bien ce qu'il me reproche. Je ne suis pas fonctionnaire. Je préfère mettre mes mains dans les poches pour m'en aller prendre l'air. Oh, s'il n'y avait pas ton père, ouais. Oh, s'il n'y avait pas ton père, on se... Ah oui, alors ton c'est ton père, hein. Je ne l'aime pas du tout, hein. Comme on dit vulgairement à Paris, je ne peux pas le blairer. Enfin, je continue.
Il est petit et il brise. Il a des moustaches en croc. Comment ta mère fut-elle conquise par un pareil asticot?
Oh, s'il n'y avait pas ton père, ouais. Oh, s'il n'y avait pas ton père, il est affreux. Qu'est-ce qu'il est vilain ton père, mon vieux. Il n'a rien de marlon pour un dos.
Enfin, j'en continue. Mais ce matin dans ta chambre, t'en souviens-tu, mon aimé? Sans que personne puisse entendre, je suis venu me cacher. Oh la joie, il n'y avait pas ton père. Ouais, joie, il n'y avait pas ton père. Rien que nous deux. Aïe, 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 aïe. Ça fait un Saint-Jean continue.
Que de baisers de folie. Nous avons fait les idiots. Il serait mort d'une embolie s'il était rentré plus tôt. Ah, il n'y avait pas ton père, ouais. Ah, il n'y avait pas ton père. J'étais heureux. Ah, qu'est-ce que j'étais heureux, moi.
Enfin, oublions. Mais le soir, plein de courage, je suis venu demander ta main, et sans se mettre en rage, ton papa m'a accepté. Ah, que j'aime mon beau-père, ouais. Ah, que j'aime mon beau-père, on est heureux.
Oh, s'il n'y avait pas ton père, une des quatre chansons composées en 1956 par Henri Salvador sur des paroles de Boris Vian pour un disque 45 tours entièrement dédié au rythme de calypso. Par la suite, Henri Salvador suivra les vogues musicales des années 60 et 70 sur le mode parodique, comme naguère avec le rock'n'roll. Mais désormais, ce ne sera plus vraiment en précurseur, ce sera plutôt en suiveur. Par exemple, avec le Twist SNCF en 1962, et cela ira jusqu'au disco avec J'aime tes genoux en 1975. Dans la prochaine émission, nous verrons comment se passait le travail entre Henri Salvador, le compositeur, et ses différents paroliers. Je remercie Pascal Bénard à la technique et Christine Amado à la réalisation. Pour les archives de l'INA, Catherine Louboutin et Anne Lorveille. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine à l'écoute de France Musique.
Dans mon jardin d'hiver.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.